Nous, on vit les choses au quotidien. C'est le maire qui doit rentrer les vaches, c'est le maire qui doit récupérer le chien. Ça veut dire qu'il nous faut, à un moment donné, nous libérer. C'est pour ça que j'aime bien la Mirabelle.
Dans cette émission Backseat spéciale ruralité, on voulait recevoir des personnes qui agissent dans la ruralité, des associatifs, des personnes qui montent des projets, qui tentent de redynamiser le tissu social, aider les maires dans les centres-villes également. Je vous propose qu'on accueille une première invitée, un tonnerre d'applaudissements pour Marie Dubost. Salut Marie, merci d'être avec nous. Marie, je te présente, tu es la responsable animation du réseau à la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Est-ce que tu peux nous présenter cette organisation ?
Bien sûr, donc déjà bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc je travaille à la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui est une tête de réseau féministe qui a plus de 40 ans d'existence et qui rassemble en fait 83 associations partout en France qui sont spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Et on gère également, on a créé il y a plus de 30 ans et on gère aujourd'hui le 3919 qui est le numéro national d'écoute, d'information et d'orientation pour les femmes victimes de toute forme de violence. Donc je rappelle que c'est un numéro qui est complètement gratuit, anonyme, confidentiel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pouvez appeler ce numéro si vous vous posez des questions, que vous êtes un proche d'une victime, un professionnel aussi, et qu'il est accessible bien sûr en ruralité, aussi dans les départements et régions d'outre-mer. Et donc notre réseau, il intervient aussi en ruralité, bien sûr.
On va en parler justement, parce que la raison pour laquelle on a voulu t'inviter, Marie, sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que vous lancez une campagne de communication et de mobilisation sur les violences faites aux femmes en milieu rural. C'est quoi cette campagne ?
Alors, en fait, cette campagne, elle part d'un chiffre assez alarmant. C'est qu'en milieu rural, il y a 50% des féminicides, alors qu'il n'y a que 30% de la population. Et ça, comment ça s'explique ? Est-ce que ce serait parce que les hommes ruraux sont plus violents que les hommes urbains ? Non.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est voilà. Qu'est-ce qui explique cette disproportion ?
Non, en fait, les occurrences de violences sont les mêmes partout sur les territoires. Mais c'est les conséquences de ces violences qui vont être plus dramatiques en ruralité à cause de certaines spécificités. Notamment le manque de mobilité, puisqu'en ruralité, il y a 80% des déplacements qui se font en voiture. Donc voilà, si la femme n'a pas accès à une voiture ou que on appelle ça le contrôle kilométrique, si elle est contrôlée vis-à-vis de ça, les transports en commun, on sait que c'est compliqué en ruralité. Et puis il y a aussi la question de l'accès aux services, que ce soit les services de santé, de gendarmerie, de justice, les associations spécialisées surtout, qui essayent de faire de l'aller vers, mais qui ne peuvent pas être financées pour aller partout. Et donc ça a pour conséquence en fait un retard dans la prise en charge, dans le repérage, puis dans la prise en charge des victimes. Et donc les femmes, qu'est-ce qui se passe pour elles ? Elles renoncent aux soins, elles renoncent aux démarches juridiques, elles renoncent à l'accompagnement social. Et donc elle reste en fait au domicile à subir les violences et c'est pour ça qu'il y a plus de féminicides. Les associations qui pourraient les aider, elles n'ont pas les moyens de répondre à toutes les demandes. Donc cette campagne, c'est parce qu'en fait on fait ce constat qui n'est pas un constat essentialisant de la campagne mais qui est vraiment un constat politique d'un désengagement de l'État qui fait suite à des décennies de politiques publiques qui n'ont pas priorisé la ruralité.
Est-ce que quand dans l'élaboration de cette campagne, parmi les spécificités évidemment sans être essentialisant, il y avait le fait qu'on sait que les femmes victimes de violences ont souvent honte et c'est quelque chose qui les retient aussi d'aller voir porter plainte ou d'aller voir des associations, etc. Quand on est dans des petits villages, etc., on sait que les informations circulent plus vite, où les gens se connaissent, il y a une proximité qui est plus grande en tout cas que dans les villes. Est-ce que c'est aussi un facteur ou pas forcément ?
Oui, l'interconnaissance, c'est un facteur, effectivement. Notamment, forcément, si la femme victime voit son mari qui joue au foot tous les dimanches avec le maire et le gendarme, c'est beaucoup plus compliqué pour elle d'aller demander de l'aide. Les associations féministes spécialisées, elles l'ont très bien compris, puisqu'aujourd'hui, elles savent que les femmes, elles vont pas forcément être en capacité d'aller pousser la porte de l'association. Et c'est pour ça qu'elles font ce qu'on appelle de l'aller vers, qu'elles doivent aller là où les femmes se trouvent de manière discrète. Il peut y avoir des permanences délocalisées ou des vannes itinérants qui sillonnent le territoire pour aller à leur rencontre aussi de manière plus discrète. Et c'est pour ça que aussi on a besoin des élus et donc les municipales, c'est aussi cette occasion de mobiliser.
Est-ce que c'est plus difficile pour les victimes de violences de se protéger ou de se réfugier quand elles vivent en milieu rural ?
C'est plus difficile, notamment parce qu'on ne peut pas enjoindre aux femmes de partir si elles n'ont pas de toit sur la tête, si elles n'ont nulle part où aller, surtout qu'elles ont souvent des enfants. Et en ruralité, il y a notamment la question de l'hébergement et du logement aussi qui se pose, parce qu'il y a très peu de places d'hébergement spécialisées. Quand il y en a, il faut aussi financer l'accompagnement des associations qui va avec, l'accompagnement social. Il y a peu de logements sociaux. Là, il y a une initiative qui a vu le jour qui est intéressante. C'est, par exemple, vous savez, en ruralité, il y a beaucoup de logements de fonction, des écoles ou des collèges qui sont inoccupés, en fait. Pourquoi ne pas les remettre en l'état pour en faire des hébergements pour femmes victimes de violences avec leurs enfants, par exemple ?
Lomir ?
Oui, je pense que quelque chose d'autre, ça m'intéresserait que tu en parles un peu, c'est que souvent, on ne sait pas, parce qu'on parle de la campagne comme d'un espace géographique, mais c'est aussi un espace social. 75% des gens qui habitent à la campagne, c'est des classes populaires. Donc en fait, il y a aussi, j'imagine, un sujet économique. Comment est-ce que ça se manifeste, ça, pour vous ?
Pour nous, ça va être un de nos axes de priorité dans notre plaidoyer, la question de la précarité des femmes en milieu rural. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le parcours de sortie des violences conjugales, l'indépendance économique est vraiment cruciale. Et en ruralité, on le sait, il y a des opportunités professionnelles plus limitées. Il va y avoir beaucoup d'emplois précaires chez les femmes, notamment dans les secteurs du soin ou de l'aide à la personne. C'est 25% des femmes, alors que c'est que 11% en ville. Pour les agricultrices aussi, les agricultrices, elles gagnent 30% moins que les hommes agriculteurs et leurs exploitations sont 40% plus petites. Et j'ai même pas encore parlé des DROM, mais je pense que c'est intéressant de souligner aussi que pour les femmes ultramarines, la vie chère...
Les régions d'outre-mer.
Voilà. La vie chère aussi les impacte doublement. Par exemple, on a parlé à notre association de Martinique qui nous a expliqué que les femmes aident à domicile là-bas, en fait... n'ont pas les moyens d'avoir leur propre voiture, donc elles louent 25 euros par jour des voitures pour pouvoir faire les trajets entre les différentes familles.
Pour les femmes aides à domicile.
Ouais.
Vache. Namou ?
Et du coup, par rapport à votre politique d'aller vers justement les femmes qui osent pas forcément se rapprocher des associations comme les vôtres, est-ce que justement il y a aussi une volonté par exemple d'intervenir auprès du public concerné, que ce soit dans les écoles ou pour sensibiliser en fait la population et leur faire connaître vos dispositifs, en tout cas ce que vous aimeriez mettre en place pour les zones rurales?
Ouais, alors je vous le disais, on est en direct du congrès de l'association des maires ruraux de France, donc il y a des annonces micro qui sont faites, et actuellement c'est quoi l'annonce micro?
C'est sur Baxit.
C'est Baxit, bien sûr. Voilà.
Ensuite, petit rappel de l'intervention à 19h30 de Sylvain Chavanel et de Raphaël Rugon.
Ouais.
De la Fédération des trucs.
Ça va, c'est pas. On a perdu le petit Jean Massier.
Apparemment. Apparemment, sur le stream, en fait, ils n'entendent pas la voix, parce que les micros sont, captent pas la voix.
D'accord.
Et nous, sur le plateau, on ne peut pas se concentrer, parce que là, on a une annonce de gare, là, en fait. Excusez-nous. On arrive tout de suite. On est toujours avec Marie Dubost. Et Namou, tu reposais une question que tu peux résumer.
Je repose ma question, du coup. Justement, par rapport à votre initiative d'aller vers le public concerné, est-ce que vous envisagez aussi de mettre en place des systèmes de prévention, de sensibilisation auprès des écoliers, des collégiens, des lycéens, enfin, en tout cas de la population qui est concernée par ces questions-là, afin de leur faire connaître déjà vos associations et aussi vos initiatives à venir.
Mais là, on entend,
Marie,
si je
peux. Tu peux attendre si tu veux que ce soit fini. Là, il y a une annonce d'apéro en plus, c'est hyper important. On est sur l'apéro du congrès de l'association des maires ruraux de France. Et apparemment, les gens dans le chat me confirment qu'ils entendent bien. Ça va être pénible à un moment. Non, ça va aller.
Ok, vite.
Marie, c'est à toi, je t'en supplie.
Donc, effectivement, un axe aussi très important, c'est un peu le package sensibilisation, prévention, formation. Le rapport Femmes et Ruralité du Sénat de 2021, il montre qu'en fait, les femmes, elles ont souvent aucune connaissance des dispositifs qui pourraient leur venir en aide. Donc, je continue. Les municipales, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on peut mettre en place des campagnes d'affichage dans tous les lieux de vie ruraux, les mairies, les écoles, les CCAS, les pharmacies, les cabinets médicaux, et aussi formation des professionnels, tous les professionnels qui peuvent intervenir dans la prise en charge des femmes.
Non, vas-y, là, tu fais, t'avais
un truc à demander. Oui, enfin, je sais pas si, du coup, ils nous entendent, ils entendent ou pas ?
Ils entendent un peu, mais apparemment, ça les dérange pas.
Ah, d'accord, bon. Non, mais c'était parce que, comme tu as évoqué le sujet par rapport au municipal à venir, est-ce que du coup il y a un plan d'engagement, enfin sur lequel vous demandez aux candidats au municipal de prendre un engagement en fait sur les mesures ou enfin ouais, quelles sont les principales demandes?
Merci beaucoup de me poser cette question. Donc, en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on part sur les maires? Pourquoi les maires, c'est intéressant pour nous? Vous l'avez dit tout à l'heure, sur 36 000 communes, il y a 30 000 communes rurales. Donc, les maires, c'est un peu le point commun entre toutes les formes de ruralité partout en France. Et c'est aussi des acteurs clés de proximité. C'est des relais de confiance, souvent. Donc, ils ont vraiment un rôle crucial dans le parcours de sortie, en fait, des femmes victimes de violences. Et l'interconnaissance dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment un enjeu à ce que ça ne serve plus un système d'impunité, mais que ça serve au contraire un système de solidarité au sein des villages. Et les municipales, pour nous, c'est un levier très important parce qu'on défend que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une responsabilité politique à toutes les échelles, y compris locales. Après, bien sûr, ça doit être toute une chaîne parce que si les maires, ils n'ont pas les moyens non plus au-dessus, forcément, ils ne pourront pas faire grand-chose. Mais c'est pour ça qu'on va lancer une campagne de mobilisation parce qu'on aimerait lancer un mouvement pour faire évoluer un symbole dans nos vies. Au cœur de nos vies, c'est le mariage. En fait, on va s'appuyer là-dessus.
Vous voulez faire quoi exactement?
Parce qu'en gros, vous savez que c'est les mères qui prononcent les vœux de mariage. Ouais. Et du coup, on aimerait s'appuyer là-dessus. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes dans les campagnes municipales qui nous écoutent, ça pourrait vous intéresser. En gros, l'idée, ce serait que les mères s'engagent à dire oui à l'amour et non aux violences conjugales.
Ah, donc ça, au moment où ils célèbrent les mariages?
Ouais.
Au moment de la célébration du mariage, il y a des applaudissements ici.
Ben, je crois que ça va avoir lieu dans la mairie de Thibault, je pense.
Mais ça veut dire quoi concrètement si qu'est-ce qu'un maire rural qui veut s'engager à vos côtés peut faire?
Alors, donc déjà, il y aurait cette campagne de mobilisation qui est un peu symbolique, la question du mariage. Une association féministe engage des maires à changer le discours des vœux de mariage pour y intégrer un nom ferme, parce que c'est un pacte républicain, le mariage aux violences conjugales. Ça montre que dans sa commune, en fait, ça ne passe pas. Donc, il prend position, en fait, aussi contre les violences conjugales. Et on va aussi éditer un guide plus concret où il y aura plein de mesures de comment peuvent s'engager les élus. Je parlais des remises en l'état de logements de fonction, mais il y a aussi la question sur l'hébergement, de créer un réseau intercommunal de mise en commun d'hébergement, parce que si la femme, elle est obligée de partir de chez elle, elle ne pourra pas rester dans le village. Donc, il faut qu'il y ait des solutions, en fait, dans les villages d'à côté et plein d'autres choses, notamment avec les associations aussi.
Et j'avais une question qui est autour justement de cette interconnaissance. Parce que est-ce que souvent les femmes que vous suivez, est-ce qu'elles demandent plutôt à partir du village et du coin ou est-ce qu'elles veulent plutôt rester? Parce que c'est à double tranchant cette histoire. J'imagine que quand tu as tout un réseau de solidarité avec tes habitudes, etc., tu peux dire pourquoi c'est à moi de partir finalement. Moi, j'ai rien demandé, je suis une victime. Et puis, on sait aussi dans les milieux populaires que les grands-parents, les amis jouent un rôle, y compris un jour un rôle de garde, etc. Et en même temps, la perspective de rester dans le même village que ton agresseur doit être très compliquée. Donc comment ça se passe concrètement ?
Ouais, c'est sûr que pour les femmes, en fait, déjà dans la majorité des situations, malheureusement, ce sont les femmes qui se retrouvent à devoir partir. Et donc, en fait, il y a un véritable déracinement, comme tu le dis, en ruralité, encore plus dans les départements et régions d'outre-mer, où ça peut impliquer carrément de devoir quitter l'île, avec déjà le coût que ça peut représenter de prendre un avion avec toutes ses affaires, etc. Et donc, effectivement, l'idéal, ce serait que ce soit l'agresseur de partir. Ce n'est pas toujours possible parce que bon, c'est des procédures d'éviction du conjoint violent et des fois le danger est trop grand et ça prend trop de temps. Donc la femme, elle doit partir avec ses enfants, changer la scolarité, trouver des nouveaux modes de garde. C'est très compliqué, ouais.
Merci Marie Dubost d'être venue sur ce plateau. Merci d'être venue témoigner et d'être venue nous présenter cette campagne que vous menez avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
À très bientôt. Merci Marie. On continue, chers amis, sur ce plateau à recevoir des personnes impliquées, des personnes qui militent, des personnes qui se battent dans la ruralité. Et on accueille tout de suite un nouvel invité. Il s'agit de Thibaut Renaudin. Viens Thibaut, viens nous rejoindre sur ce plateau. Tu es le président d'INSIT et tu es également le maire de Termes d'Armagnac dans le Gers.
Exactement.
Tu vas bien ?
Je suis en pleine forme.
Merci d'être avec nous. INSIT, ça existe depuis 2019. C'est une organisation qui aide gratuitement les communes de moins de 1500 habitants à accueillir des jeunes de 18 à 25 ans en service civique. C'est une sorte d'Erasmus rural. J'adore l'expression Erasmus rural.
C'est pas mal, hein ?
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Raconte-nous un petit peu comment c'est né cette initiative. C'est quoi le concept ?
En fait, c'est exactement ce qu'a dit Lumière tout à l'heure. On est fatigué d'avoir des discours larmoyants sur la ruralité. Dans les territoires ruraux, les territoires de moins de 1500 habitants, les villages de moins de 1500 habitants, c'est 27 000 communes en France. Sur les 35 aujourd'hui, un peu moins de 35. C'est 27 000 communes. Dans ces 27 000 communes, il y a des gens extraordinaires, là comme ailleurs. Des maires, des responsables associatifs, des jeunes, des vieux, qui tous les jours mettent en place, inventent, portent des projets qui ont du sens au service de l'environnement, du lien social, de la lutte contre les inégalités. À tout niveau, il y a des gens fantastiques. Sauf ces gens-là, ils ont... Alors, il y a des gens fantastiques là comme ailleurs. Mais eux, ils ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens humains et très peu de moyens financiers. Et donc, ça génère une sorte de frustration de se sentir à côté d'eux, malgré l'initiative, l'engagement, le combat de tous les jours. Et donc, je me suis dit, avec d'autres, il y a 7 ans, bah, il faut essayer de réunir deux choses qui étaient... deux éléments qui étaient un peu contre-intuitifs. C'est-à-dire l'ultra-ruralité, qui a l'image de territoire, les pieds dans des bottes en caoutchouc, dans la glaise, ça sort pas, on a des valeurs, des traditions qu'on pourrait pas partager avec d'autres. Ça, c'est l'image un peu d'Épinal. Et puis des jeunes qui sont feignants, repliés sur eux-mêmes, qui s'intéressent pas au reste du monde, etc. Bon, déjà, Socrate... Enfin, Platon disait que Socrate disait la même chose il y a 2500 ans. Bon, donc on a voulu relier ces deux
clichés-là. Tu dis on va les péter les deux.
Ceux-là, on va les réunir. Bon, quand j'ai eu cette idée-là, il y a des gens qui m'ont dit l'idée est géniale, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Eh bien, au bout de 6 ans et demi maintenant d'action, on accompagne, on est dans 9 régions, plus de 200 villages qui sont accompagnés et des jeunes qui vont dans tous les villages. La taille moyenne de nos villages, c'est entre 400 et 500 habitants. Ils vivent pendant 6 mois par équipe de 2. Ils s'engagent 24 heures par semaine chacun. Ils s'impliquent au service de ceux qui font. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association descendante, mais ascendante. On travaille avec, on fait un petit travail de diagnostic territorial avec les maires. On dit, voilà, qu'est-ce que vous faites comme projet ? Sur quoi on peut venir vous aider ? Donc, on définit 2-3 projets par jeune. Et ça dure 6 mois. Et ce dont on se rend compte, c'est d'abord que ça vit bien. Ça vit bien pourquoi ? Parce que les jeunes, ils sont encadrés, ils ont un service civique, ils ont une petite indemnité. Ils ont un logement gratuit qui a une double signification. C'est d'abord le modèle économique, il est quand même plus facile quand on est hébergé. Donc ce qui nous permet d'envoyer des jeunes partout. Et deux, ça veut dire bienvenue chez nous. Chez nous, c'est chez vous. Ça change tout ça.
Je rappelle que le service civique, c'est un dispositif qui permet aux 18-24 ans de s'engager dans une association, 25 ans, oui.
25, 30 en situation de handicap.
Ouais, effectivement, qui permet de s'engager dans une association, une collectivité territoriale ou autre, pour un contrat de 24 heures par semaine, avec une indemnité. C'est quoi les types d'actions que mènent les jeunes ?
Alors, c'est très très variable. Ça peut être un sentier de randonnée. Ça peut être un travail avec une EHPAD, ça peut être un travail autour de la question du patrimoine, de la culture.
La mémoire aussi, vous avez
la
fait
mémoire,
tout ce truc autour des anciens qui racontent,
Leur histoire.
La mémoire du village.
Ah ouais,
et les jeunes,
bien.
Ils vont vraiment enregistrer ce qui s'est passé dans le village, c'est quoi cette place, c'est incroyable.
En fait, c'est un maillage de projets. Chaque village, dans les 200 villages qu'on accompagne, il y a une très grande diversité de projets. Et ce qui est notable, c'est que, je salue Elodie qui est là-bas, qui est la cofondatrice avec moi d'INSEED, c'est que aujourd'hui, 20%, 18 à 20% des jeunes qui passent 6 mois dans les villages, qui viennent souvent de très loin, restent sur le territoire après, et en 6 ans et demi, ça a créé 30 emplois directs, sans compter les emplois indirects.
Les jeunes s'installent.
Les jeunes s'installent.
Ils repartent
dans les villages.
Ah, j'aurais dit que, d'accord.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que, on a dans nos territoires, on a des émetteurs de projets. Des élus locaux, des responsables associatifs qui ont plein de projets. Sauf que pour recruter des gens, dans leur environnement direct, les populations sont réduites. Et donc, on ne trouve pas forcément les gens. Nous, on est en contact avec plein de récepteurs potentiels qui viennent de France et d'ailleurs, d'Afrique, d'Europe, et qui sont intéressés par ces projets. Donc, on les fait venir. Et faire en sorte que, autour de projets communs et de vie commune, on apprend à se connaître, on apprend à s'engager ensemble, après, au bout de 6 mois, parce que chacun de nos villages sont des endroits extraordinaires. Où qu'ils soient, de la Corse à la Normandie, de l'Alsace au Pays Basque, il y a des endroits extraordinaires, avec des gens extraordinaires. Tu l'as dit tout à l'heure, la ruralité, c'est pas qu'une géographie. C'est des gens qui vivent et des projets.
Namo ?
Parmi les jeunes qui justement rejoignent Insight, et qui
on dit font... comme on aime
Insight et qui font justement ces services civiques. Quel type de profil vous avez? Est-ce que c'est forcément des jeunes issus de la ruralité ou pas forcément? Est-ce que voilà, il y a, enfin, est-ce que vous avez un profil type ou pas forcément?
Surtout pas. Non, on n'a pas de profil type et les gens ils viennent. Il y a à peu près autant d'urbains que de ruraux. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais c'est des gens qui viennent d'un peu partout. Parce qu'ils postulent à des projets directement. Ils ne viennent pas à Insight globalement, il n'y a pas de projet normé. C'est à tel endroit, dans ce village, ce projet sur l'environnement, sur le lien social, j'ai envie de m'y impliquer et donc j'y vais. Voilà. Donc, il y a des gens qui postulent d'un peu partout.
L'année prochaine, c'est les municipales. Est-ce que Insight ne participe pas aussi à créer la nouvelle élite politique locale?
Alors, je ne sais pas si c'est une élite, mais en tous les cas, c'est des gens qui auraient envie. Okay. À quoi Insight a cette petite magie aussi, c'est de faire en sorte que nos jeunes, ils vivent avec des élus locaux au moins 24 heures par semaine, voire un peu plus parce qu'ils vivent là, ils sont bénévoles, ils s'engagent, etc. Ce qui fait qu'ils voient différemment la démocratie se décliner sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les enjeux nationaux de rupture, de fracture, de combat les uns contre les autres. Moi, dans ma mairie, qui sont élus avec moi, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi. Mais on travaille ensemble, on construit ensemble. Et donc, ces jeunes-là, ils ont une vision de la démocratie tout à fait différente. Donc, je suis convaincu, là, c'est la première échéance électorale qu'on va vivre avec Insight, mais je suis convaincu...
Il va y en avoir sur les listes.
Ça va donner envie, c'est sûr.
Ok. Lumière.
Je voudrais bien ton avis sur un truc. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Manon Rousselot-Payet, tu sais, qui dirige le MRJC, le plus grand mouvement de jeunesse rurale. Mouvement rural de jeunesse chrétienne, donc le plus grand mouvement de jeunesse rurale. Ouais. Et elle disait, ce que j'aime du MRJC, c'est qu'on prouve qu'on n'est pas obligé de faire un passage par la ville pour... s'ouvrir l'esprit, etc. Parce que beaucoup des préjugés qu'il y a sur les ruraux, notamment avec l'augmentation du vote RN ces derniers temps, c'est « Ah, mais c'est parce que ils sont jamais sortis de leur trou, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu autre chose, etc. » Et ce que je trouve vachement intéressant de Insight, c'est que vous amenez les gens dans un village en partant du principe que c'est un changement, que c'est de l'ouverture d'esprit. Donc, je voulais un peu ton avis là-dessus.
Oui, on participe à peut-être un peu modifier l'image des territoires ruraux. D'abord, on dit que les territoires ruraux, ces territoires, tous ces territoires ruraux, ils sont dynamique, innovant, joyeux et solidaire. Dynamique, innovant, joyeux et solidaire. Ça change la donne d'une image un peu moisie de ces territoires. Donc, ça crée de l'envie. Ça change l'image et on fait tout un travail de valorisation de ces villages. Pour ça, à chaque fois, on dit, quand on arrive dans un village, c'est le plus beau village au monde. Et c'est à chaque fois les plus beaux villages. Tu l'as dit, ton département, c'était le plus beau département de France.
Bon, est-ce sûr, qu'on va avoir une page sur le Gers?
J'ai pas réagi, mais évidemment que c'est le Gers. Mais chaque département, chaque village, il y a une fierté, mais c'est une fierté qui se partage. Et donc, on a des gens, on n'a pas besoin de faire forcément une grande école pour se révéler, de mener des projets extraordinaires. J'étais en contact, je voyais un maire de Corse, Costa, un village de Balagne, 70 habitants. Il fait une cité de la musique. Il fait une cité de la musique. C'est un endroit incroyable. Il est déjà en lien avec plusieurs orchestres internationaux. Ça va rayonner 70 habitants. Donc, dans tous ces territoires-là, dans mon petit village, on fait le premier EHPAD 100%. On est à 87% aujourd'hui de bio, de local, en termes de restauration. C'est une innovation. Et donc, on arrête les laxatifs, la courbe des poids remonte, les gens sont plus en forme. Bilan, et c'est moins cher. Donc, il y a de l'innovation dans ces territoires, sauf que comme c'est 27 000 communes, c'est très atomisé. Donc, notre boulot, et y compris avec une plateforme qu'on est en train de construire avec la MRF, avec Bouche-Ton-Coq, avec Amolégé, c'est de travailler sur une plateforme qui s'appelle On fait campagne, pour valoriser ça et montrer toutes les initiatives porteuses de sens qui marchent. Et donc, pour faire en sorte que les collègues maires puissent s'en servir et ne perdent pas de temps à aller chercher des choses et s'en servir directement.
Comment vous choisissez les villages avec lesquels vous allez collaborer ou dans lesquels vous allez envoyer des jeunes? Est-ce qu'il y a aussi un choix entre guillemets politique? Enfin, est-ce que vous travaillez avec des mairies d'extrême droite, par exemple?
Il n'y a pas beaucoup de mairies d'extrême droite, d'abord. Et ils font naturellement pas appel à nous. En tous les cas, on n'en a pas croisé.
Ouais, c'est pas leur truc.
Non. Les mairies qui font appel à vous,
c'est ça? Ouais, c'est les mairies qui font appel à nous et ils doivent partager nos valeurs. Et quand je dis la ruralité, dynamique, innovante, joyeuse et solidaire. Ben, évidemment que si on fait venir un jeune en service civique qui est originaire du Maghreb et qui on nous dit bah non, c'est pas pour nous, évidemment que cette mairie n'a pas vocation à être dans le réseau d'INSEE. Donc, on tient ferme sur nos valeurs et à la fois, on intègre, on discute, on échange avec les gens. C'est ça la force de la ruralité.
C'est quoi votre modèle économique? Comment vous vous financez?
Ça, c'est une bonne question. D'abord, l'intervention, elle est gratuite pour les villages.
D'accord, ok.
C'est gratuit. Donc, les villages, mais les mairies adhèrent à INSEE, ouais. Un prix libre, ça peut être quelques dizaines d'euros. C'est un prix libre parce qu'on est en gouvernance partagée. Donc, chaque partie prenante de notre réseau est partie prenante et travaille avec nous. Donc, il y a une adhésion. Sinon, on a 45% de financement public, 55% de financement privé. Et les financements privés, c'est beaucoup de fondations, la Fondation de France, la Fondation de la France s'engage qui nous a beaucoup accompagnés, mais aussi la Fondation SNCF, la Fondation RTE, AG2R La Mondiale, bon, beaucoup autour de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, des financements nationaux, le ministère de la cohésion, la cohésion des territoires, le ministère de la jeunesse, puis ensuite les préfectures, les régions et les départements. Mais il faut dire que les financements publics fondent énormément. Donc on a un projet d'essayer de créer en plus une fondation pour venir aider les mairies, les petites mairies, pour venir non seulement on apporte des bras, des jambes, des jeunes qui s'installent, mais on a envie de venir apporter. Il y a quelques 10 000 euros, 15 000 euros, on change un peu la vie dans un village.
Namo.
Et au niveau des jeunes, comment vous faites justement pour les attirer vers votre initiative? Est-ce que vous faites des campagnes de communication au niveau des CROUS, des facultés? Comment tout ça se passe sur les réseaux sociaux?
Beaucoup les réseaux sociaux, okay. Beaucoup les réseaux sociaux. L'agence du service civique, bien sûr, on a des fiches missions, on publie ces fiches missions. Et il n'y a pas besoin d'avoir des campagnes de communication de dingue parce qu'il y a une envie de s'engager. Nos jeunesses veulent s'engager. Il suffit de proposer des créneaux qui ont du sens, dans lesquels elles ont une plus-value, elles s'engagent vraiment, elles font pas juste des tâches subalternes, non, elles montent des projets. C'est pour ça qu'après les gens, ils ont envie de rester et de travailler sur place, donc ils sont considérés vraiment à égalité de droits et d'unité par rapport à n'importe quel autre citoyen du village.
On rappelle qu'il y a plus de jeunes qui voudraient faire un service civique que de services civiques disponibles.
Ça, c'est un vrai sujet. 150 000 missions de service civique en début d'année, et là, avant l'été, on nous annonce qu'on va avoir 15 000 missions de service civique en moins, ce qui est un scandale. On pourrait en avoir, il faudrait qu'on en ait 200, 250 000, et il y en a 15 000 de moins, alors qu'on est dans une période où on se dit la jeunesse va mal, et ce qui est vrai, il y a des vrais problèmes de positionnement. Alors que ce dispositif, porté autant par la gauche que par la droite, il marche, il fonctionne, c'est une vraie politique publique jeunesse qui est efficace. Eh bien, on va économiser 45 millions d'euros pour 15 000 missions de moins, ce qui est pour moi un scandale absolu.
C'est con, il n'y a plus de SNU, on aurait pu prendre le pognon du SNU. Mais enfin, en vrai, je vais pas.
Mais on l'avait dit
plus d'une fois. Excuse-moi, Loumir.
On a vachement parlé de INSEE, mais tu es aussi maire. C'est quoi ton truc préféré sur le fait d'être maire d'une commune rurale?
M'occuper des gens. Je crois que c'est le truc le plus fascinant du boulot de maire. Je suis un jeune maire, entre guillemets, parce que ça fait que 5 ans que je suis maire, 5 ans et demi. Mais c'est être un couteau suisse dans un village. Et porter de l'attention à tout le monde. Et faire en sorte d'embarquer un collectif, de construire un collectif. Moi, toutes mes manifestations sont le moment de la convivialité, de l'échange, du partage. Le 11 novembre, je l'ai traversé, j'ai transformé en fête de la paix. Bon, voilà. Et donc, j'ai 50% du village qui vient aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai parce qu'il y a de la convivialité, parce qu'on se dit des choses,
parce qu'il y a de l'Armagnac.
Si on n'est pas d'accord. Alors, il y a de l'Armagnac également, bien sûr, ça c'est un élément fondamental. Mais pas que, en tous les cas, voilà. Donc, ce qui me passionne, c'est m'occuper, être au service des gens et construire une dynamique collective.
En même temps, on a aussi des témoignages qu'on entend d'élus locaux ruraux qui jettent l'éponge, qui démissionnent, qui ne se représentent pas, avec un discours de trop de travail, trop peu payé. C'est un discours que tu comprends. Je te sens très, très volontariste, très joyeux, mais est-ce qu'il y a aussi une part d'ombre dans le mandat de maire?
Non, mais c'est bien sûr, il y a des moments où on est à disposition de la première baffe, hein, c'est-à-dire que ben, quand ça va mal, c'est nous qui prenons pour à peu près tout. Mais moi, je casserai un peu ce raisonnement misérabiliste sur les maires. Bien sûr, c'est un peu sensationnel de dire il y a beaucoup de maires. Alors c'est vrai, il y a des maires qui jettent l'éponge parce que la société va mal, parce que le rapport aux gens il est difficile et parce que ça n'est pas simple de porter tous les jours et 24 heures sur 24. Moi, mon téléphone portable, mes 200 habitants l'ont. Donc, alors, ils n'en abusent pas, mais ça peut arriver qu'un dimanche soir à 23h, j'ai un coup de téléphone parce qu'il y a une mamie qui ne va pas bien. Bon, voilà, donc, on le sait, et puis après, on fait ça en équipe. Donc, moi, je crois qu'on a une force terrible d'avoir ces 35 000 maires et ces près de 30 000 maires ruraux qui font un travail fantastique, parce que ce sont les plus petites alvéoles du poumon démocratique et républicain de la France. Il faut les accompagner, il faut leur donner bien sûr un petit peu de moyens en plus, parce qu'on en a besoin, mais surtout, il faut leur apporter de la considération.
Voilà. J'allais te parler de ça aussi. Ce qu'on entend souvent de la part des maires ruraux, c'est la faiblesse des moyens, l'incapacité à agir, à transformer concrètement les choses. Tu nous as parlé tout à l'heure d'innovation, d'envie d'agir, d'envie d'énergie qui existe. Et pour autant, est-ce que tu as les moyens de remplir tes ambitions ?
On a les moyens d'inventer. On a les moyens d'inventer.
Ça veut dire galère.
Mais quand t'as pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de gens, il faut inventer. Et là, il faut être bon, hein. Donc on est tous des MacGyver, couteau suisse. Donc on invente. Ce qui fait que ça peut monter des projets extraordinaires. Mais en effet, on a plus besoin de moyens. En effet, nos collectivités locales et l'intercommunalité posent une vraie question là-dessus. C'est qu'on est dépossédé et à la fois du droit et à la fois du fric. Et qu'on passe une partie de nos conseils municipaux à avaliser des décisions qui sont prises ailleurs. Alors ça, c'est une vraie question démocratique qui se pose. Pour autant, l'intercommunalité peut avoir un certain nombre d'avantages. Moi, mon intercommunalité, c'est 24 communes, 7000 habitants. Tout le monde se connaît et donc on travaille ensemble. Mais quand on a une intercommunalité de plusieurs centaines de communes avec 100 000 personnes, le maire rural, bien sûr, il ne prend jamais la parole. Donc, à la fois, ça a une vertu, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de moyens, parce qu'on est obligé de se débattre et d'inventer. Et il y a vraiment des pépites, c'est vraiment extraordinaire. La question de l'innovation et du dynamisme est très fort. Et à la fois, c'est une entrave de temps en temps à pouvoir mener nos projets.
Dernière question, Latifa.
Ça faisait penser vraiment à l'inventivité. C'est on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, quoi. Ce slogan même dans la ruralité. Là-dessus, c'est les élections municipales l'année prochaine. Je ne sais pas, est-ce que vous inciteriez un jeune à devenir maire de son village, à s'engager, etc. Je sais qu'on va recevoir le plus jeune maire de France après.
Qui est chez Incite en plus.
C'est quelqu'un de bien alors.
C'est quelqu'un de remarquable.
Mais du coup, vous incitez globalement les jeunes à.
Non, mais c'est une aventure extraordinaire. Extraordinaire. Être maire, c'est une aventure. D'abord, il n'y a pas que moi qui le dis. Même les gens qui ont été maire et président de la République disent le plus beau mandat, c'est être maire. Parce que c'est un mandat de contact, c'est un mandat d'action, c'est un mandat qui est dans le réel. Donc c'est une aventure humaine extraordinaire. Il faut savoir s'entourer. C'est du temps. On fait pas ça ni pour la gloire ni pour l'argent, ça serait. Mais c'est une aventure humaine extraordinaire.
Merci. Présentez-vous aux élections l'année prochaine, n'hésitez pas, l'aventure municipale. Merci beaucoup Thibaut Renaudin d'être venu sur ce plateau. Je te laisse quitter le plateau Thibaut. Merci d'avoir été avec nous. Ça va toujours ? Ouais, on peut l'applaudir, ouais, carrément. Merci beaucoup. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. On est toujours dans ce backseat spécial ruralité en direct de congrès de l'Association des maires ruraux de France. Loubir, ça va être ton premier quiz à la con.
J'ai un peu peur. Ouais. Le nom ne m'inspire pas confiance.
Eh bien, t'as bien raison. C'est parti pour le quiz à la con, mesdames et messieurs.
Let's go.
Alors, quiz à la con spécial mairie. Évidemment, les municipales, tout ça. On est au congrès de la MRF, faut pas déconner. Première question de ce quiz à la con. Quelle est la particularité de la petite commune de Leménil-Mitry en Meurthe-et-Moselle ? Réponse A. Est-ce qu'elle a le même maire depuis 72 ans ?
72.
Réponse B. Elle possède deux maires. Réponse C. Tous les maires de la ville ont toujours eu le même nom de famille. Ou réponse D. Elle n'a pas de maire du tout.
Déjà, j'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo.
Ouais, c'est compliqué aujourd'hui.
L'écran est très loin. Non, mais c'est pour ça que je dis ça, mais c'est... On va. Non,
tout est possible en fait. Hein.
Ouais.
Tout est possible.
J'ai l'impression que mais tout existe.
72 ans,
il a 90 ans s'il a été élu à 18 ans.
Il y en a des vieux, hein, des maires. C'est
le futur de notre invité.
Hugo, peut-être. Est-ce qu'on te souhaite d'être entre maire à 90 ans
Le côté même nom de famille, ça ne m'étonnerait pas.
Je suis d'accord. Moi, c'est ça chez moi. Hein. On a eu De la Verpillière, il a été maire, puis député. Quand il est devenu député, son fils est devenu maire. Quand il est devenu sénateur, son fils est devenu député.
Ah ouais. J'adore.
Ouais,
même ce genre de parcours.
Ouais.
Bon, évidemment, une pensée pour Louis Sarkozy qui se présente à Menton.
À qui on ne souhaite pas la victoire. Désolée.
Alors là, franchement, c'est...
Qu'est-ce que t'en penses, Latifa ?
Non, mais moi, je suis d'accord avec Loumir et Namou hein, sur... Mais bon, est-ce qu'on va pas innover, justement ?
Ah bah c'est ça je vous laisse voir. Hein.
Est-ce que c'est possible une ville sans maire?
Bah, malheureusement, il y en a
plein. Je rappelle qu'une ville, une commune qui n'élirait pas de maire faute de candidat se retrouverait automatiquement sous administration préfectorale. C'est la préf qui reprend la main.
La règle du jeu, c'est ça.
Il n'y a plus de maire, il n'y a plus de. C'est fini.
Alors,
du coup, ça coûte moins cher, il n'y a pas de conseil municipal, il n'y a pas de. Voilà.
Bon, bah, comme j'ai appris quelque chose avec cette info, pour moi, c'est ça.
Ok, d'accord. Je regarde le chat a voté réponse C.
C'est quoi réponse C? J'arrive pas à lire.
C'est le même nom de famille.
Mais alors réponse B, c'est quoi?
Elle possède deux mères.
Ah, deux mères. Ça c'est. Moi je vais dire ça, tu vois.
Tu veux dire réponse B?
Bah, je trouve que c'est une réponse à la con.
C'est bon état d'esprit du quiz à la con.
Bah, c'est une réponse à la con.
Bah, ouais. Donc réponse B pour Lomir. Lomir, elle est
moi je vais finir dernière en fin de saison.
Après,
parce qu'il y a un classement.
Chaque chroniqueur a sa strat. Il y en a qui veulent la win.
Oui, quand même.
Il y en a qui veulent.
Je ne vais pas savoir.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Rien, absolument rien. C'est ridicule.
D'accord.
Donc vas-y.
Bah, je vais dire deux mères aussi.
Donc réponse B. Toi, tu dis quoi?
Moi, je dis pas de mère. C'est... Pas de mère.
Pas de mère pour Latifa. Réponse C pour Namou. Même nom de famille. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était la réponse C. Le même nom de famille. Tous les maires de Leménil-Mitry s'appellent Dimitri.
Wow. Wow.
Il faut dire que c'est une commune dont la population culmine à 4 habitants et qui n'a eu que deux maires depuis 1977. Il y a eu Henri Dimitry et Jean-Hyacinthe Dimitry.
Dimitri, c'est le nom du village aussi. Enfin,
oui,
Mitry,
c'est le nom du village.
Bah voilà, sont chez eux, leur village.
C'est littéralement leur bled, hein, ça, là, quand on parle de fief.
Ah, le conseil municipal, c'est une réunion de famille.
Autre fun fact, lors du premier tour des présidentielles de 2022 à Leménil-Mitry, Macron, Zemmour et Le Pen ont toutes les trois fait 33%.
Ah bah la famille, c'est pas entendu là.
Il y a 4 habitants, ils n'ont pas voté la même bascule. Il y a eu 3 bulletins de vote, un Le Pen, un Macron et un Zemmour.
Ah, les repas de famille.
Il y a bien une commune qui a eu un maire pendant 72 ans. C'est la commune de Bazolles, avec André Cornu, qui a été maire de 1815 à 1887.
Waouh.
Ouais, ça date. Hein.
Ah, putain, c'est rare de vivre si vieux à l'époque en plus.
Ouais.
Et il y a bien une ville qui possède deux maires.
Ah.
C'est la mairie de Saint-Santin, qui est à cheval sur le Cantal et l'Aveyron, et qui est divisée en deux communes.
Eh ben, d'accord.
Voilà. Deuxième question de ce quiz à la con. Dans l'est de la France, surtout en Bourgogne et en Franche-Comté, il existe un type de mairie un peu particulier, mais assez répandu. Est-ce que c'est les mairies Lavoir? Est-ce que c'est les mairies Cavavin? Les mairies Horloge? Ou les mairies Fromagerie?
Il y a des lavoirs dans tous nos bleds, ça c'est vrai. C'est le lieu de l'Abribus, le lavoir ou le City Stade, c'est là où on se réunit. Donc, c'est plausible.
Mais okay. Le fromage, on est...
Mais en Bourgogne.
C'est vrai.
Le vin.
Bah, Horloge.
L'horloge.
Mairie Horloge, ça fait un peu...
C'est leur côté germanique. Avec la frontière,
pas,
ils veulent être très à l'heure.
Il y a pas des horloges sur toutes les mairies? Un peu, non. C'est moi qui hallucine là.
Est-ce que tu viens de Bourgogne ou de Franche-Comté?
Oui, c'est comme ça qu'on va savoir.
Il
n'y
a pas des horloges sur toutes les mairies.
Confond
avec les gares.
Les gares.
Confond avec les gares.
Ah ouais, purée, dans mon esprit, mais ils sont bêtes ou quoi?
Moi, je vais dire cave à vin.
Mais une mairie horloge, à part avoir une.
C'est une mairie avec une horloge
de Ben, en fait.
Non, c'est pas Big Ben, c'est Petit Ben. C'est la version mairie locale, quoi.
Non mais cave à vin, ce serait trop cliché quoi. C'est la réponse à la con quoi.
Le chat.
Ouais, mais c'est
en tout cas toutes les réponses c'est vraiment la France.
Je vous donne une indication, vous en faites ce que vous voulez, mais le chat a voté réponse C.
Qui est cave à vin.
Horloge.
Okay.
Mais ça peut pas être encore la réponse C, c'était déjà la réponse C avant.
Ah, oula, on est sur des strats, là.
Tu connais pas les gens qui font le quiz à la con, toi. Non, c'est ce genre de strats-là.
Je crois que je vais rester sur le D, parce que je me dis, c'est peut-être le moyen d'allier...
L'utile et l'agréable.
L'utile et l'agréable, et surtout, manque de locaux. Du coup, on met la fromagerie dans la mairie, quoi.
Non, mais si t'avais le choix... Parce que moi si j'avais le choix, je ferais dans ma mairie, si j'étais maire, je ferais une mairie cybercafé. Là, on pourrait jouer, on pourrait faire des petites LAN, des trucs.
Franchement, trop cool.
Parce que les mairies horloges, c'est utile pour les gens. Tu marches, il est quelle heure? Ah, tiens, j'ai une horloge.
Mais
ouais. Mairie cyber. Moi, je ferais un Mairie Coffee Shop. Mairie. La vraie bobo, tu sais.
J'avoue, moi, je vote pour
est-ce
la Mairie Cava 20.
Mairie Cava 20, petite bouteille.
Je vote pour une Mairie Cava 20. Et fromage en option si c'est possible.
Cava fromagerie. Bon, allez, vos réponses.
Réponse D, du coup.
Réponse D pour Namou.
Réponse C, Mairie Horloge, pardon.
Réponse C pour Latifa, comme le chat.
B, Cava 20.
Réponse B pour Loumir, Mairie Cava 20. La bonne réponse, mesdames et messieurs, personne ne l'avait, c'était la mairie Lavoire.
Non. Et quand ouais. Loumir, elle avait bien commencé. Hein.
Ouais. Mais
ouais,
alors,
ouais.
Pourquoi la Bourgogne et la Franche-Comté?
Eh bien, il y en a beaucoup là-bas.
Okay. On a les constaté... autres ne lavaient pas leurs vêtements.
Non, il y en a aussi ailleurs. Mais on a, voilà, vous avez un exemple, la mairie Lavoire.
Ah, ouais.
Ça existe vraiment.
C'est pas mal.
Il y a une page Wikipédia, mairie Lavoire, si vous voulez, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Donc voilà, troisième question de ce quiz à la con. Devinez combien de mètres carrés fait la plus petite mairie de France. Il n'y a pas de, proposition
ah,
de réponse.
Ah, il n'y a pas de... Oula ouais.
Vous devez donner une estimation.
Ah, et il y a à combien de mètres carrés près?
À 1 mètre carré près. Non, j'en sais rien, on verra. La plus proche gagne, oui, c'est ça, la plus proche gagne.
9 mètres carrés.
9 mètres carrés, ok.
Ouais. Un KGB, quoi.
Une mairie, ouais. Je te confirme.
6.
6 mètres carrés.
Non, c'est pas possible, même sur une île, c'est plus grand. Non, j'abuse. 20.
20 mètres carrés pour Loumir, ok.
Ah, moi, je pense que c'est moins que ça, hein, ouais. Moi, je mettrais un petit... Même moins que 9.
Vas-y, combien?
Je sais pas. 5.
5 mètres carrés.
Mais l'autre jour, j'étais sur une île où il n'y a que 80 habitants.
Oui.
Superbe île bretonne de Édic.
Édic, bien sûr, j'y suis allé cet été aussi.
Eh bien, des gens ici présents se sont mariés à Édic récemment.
Trop bien.
Et il y avait donc une mairie, vu que c'était un mariage. Et la mairie faisait clairement au moins 20 mètres carrés.
J'ai vu la mairie d'Édic, elle n'est pas grande. L'école d'Édic, elle a de la gueule, par contre. L'église est immense, vu la taille de l'île. Mais t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est pas grand. Hein.
Tu vois, toute petite île, plus de 20 mètres carrés, c'est mon raisonnement. Ouais. Est-ce qu'il se vérifie?
Qu'est-ce que vous m'avez donné comme réponse? Je me souviens
j'ai
plus.
J'ai dit 5.
9.
5, 9.
20.
5, 9 et 20. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est 8 mètres carrés. Bravo, Namou.
Wow,
pas loin du perfect. Pas loin du perfect. 8 mètres carrés. Voilà, vous avez la photo de la plus petite mairie de France.
Petite maison. La
commune de Saint-Germain-de-Pasquier n'avait pas de mairie. En 1910, le maire a alors décidé de faire de la chapelle Sainte-Clotilde une mairie.
Ah.
La mairie est donc une toute petite, comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même tout ce qu'il faut.
Bah oui.
Comme dans une mairie traditionnelle, une vieille Marianne, un portrait du président et un isoloir.
Mais où font-ils les mariages?
Sur le trottoir.
Bah ça suffit, 8 mètres carrés, ouais.
Ça suffit, ouais.
Tu prends les... Enfin, tu peux
rentrer. Il y a besoin de faire rentrer deux personnes, le maire.
Les témoins.
C'est vrai.
Ok.
J'imagine un KGB, mais là, ça va, en fait.
Ouais, 9 mètres. Ouais. Namou, elle est jolie. C'est par l'immobilier à Paris, ouais. Je crois.
Non, c'est joli. Moi, je pense que c'est mignon. Mais alors, effectivement, comment tu vas faire changer ta carte d'identité, quoi? Je veux dire, c'est un process.
Ah. Tu vas dans la mairie,
tu prends ta voiture.
Mais moi, je me souviens quand je bossais en mairie. Je considérais que le métier le plus formidable, c'était les gens qui sont à l'accueil de la mairie. La quantité de gens qui se présentent pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec les compétences municipales, mais tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils en savent rien. Et même nous, on a du mal, même nous, on galère à se rappeler de quoi la mairie est responsable par rapport au département, par rapport à la préfecture, etc. C'est vraiment, enfin voilà, l'accueil d'une mairie, c'est vraiment incroyable. Je recommande, faites-le. Quatrième question de ce quiz à la con. Avec près de 35 000 communes en France, il se passe toujours des bizarreries aux élections municipales. C'était par exemple le cas en 2014. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas produit dans ces élections? Parmi ces trois propositions, il y en a une qui n'a pas eu lieu. Les trois autres ont vraiment eu lieu. À vous de trouver laquelle. Réponse A. Une égalité parfaite entre deux candidats dans une commune du Haut-Rhin. Réponse B. Un taux de participation de 0% dans une commune du Perche. L'élection d'un mort dans une commune du Nord. Un score de 100% dans une commune du Loiret.
Ah, waouh. Qu'est-ce qui s'est pas passé, vous?
Ouais.
On connaissait les électeurs morts, mais les élus morts.
Alors, quand je l'ai dit, Loumir, elle a dit c'est sûr, c'est arrivé.
Ouais, ça me paraît hyper plausible.
Ah, mais moi aussi, hein.
C'est-à-dire que.
Mais après, je fais que de perdre. Alors, je sais pas si. Tu vois.
Après, oui, peut-être que ça peut être quelqu'un qui est décédé au moment des résultats.
Oui, c'est ça.
Le,
ouais.
Voilà, et t'as élu un mort comme ça.
Et le choc de l'émotion.
Ouais, l'émotion de l'élection. C'est moche, quoi.
Qu'est-ce que tu fais s'il y a une égalité parfaite? Tu refais?
Non, je crois que les règles dans le code électoral, c'est que c'est le cadet qui est élu ou le, ouais. ou le l'aîné, ou l'aîné, je ne sais jamais lequel
des deux. Ouais, c'est l'âge, ouais, qui
c'est
départage.
L'âge qui départage, ouais. Ce qui est complètement absurde, mais. Alors qu'on ferait ça à pile ou face, franchement.
Ça se voit, ils étaient en fin de journée quand ils ont décidé ça. Mettez l'âge. Mais ça serait, ouais. Alors,
le score de 100%. Moi, je dirais 0%.
Toi, tu dirais 0%.
Improbable qu'il n'y ait pas.
Une personne qui
se déplace. Une personne, genre le maire, tu vois. Il ne veut pas être élu.
Ouais, c'est, oui, bah,
les gens qui tiennent le bureau
quelqu'un.
De vote, ils se sont pointés, ils ont tenu le bureau de vote toute la journée, ils n'ont même pas mis un bulletin.
Ouais. C'est vrai que tu as raison que je précise que s'il n'y a pas de candidat, de liste de candidats déposés en préfecture pour une mairie, il n'y a pas d'élection dans cette ville. C'est même pas la peine de. On ne met pas d'isoloir et tout, ça ne sert à rien.
Ouais, bah oui.
Donc
bah, oui.
0%, ça veut dire que même les mecs qui ont déposé leur liste ne sont pas présentés.
Ouais, c'est...
Alors que le score de 100%, s'il y a deux personnes ouais, et qui sont d'accord,
c'est possible.
Voilà, c'est bon.
Je crois qu'il
est super dur ce quiz à la con.
Il est dur, hein.
Je fais une contre-performance totale.
D'habitude, c'est toi qui domines le quiz à la con, Latifa.
Non, pas forcément, mais voilà, je me débrouille. Là, j'ai aucune défense, j'ai aucune bonne réponse. C'est pas normal. Je suis pas venue jusque dans le Poitou pour me faire enfin,
ouais, d'habitude, j'y arrive pas là, des masses, mais je fonctionne un peu par la logique. Et... Alors que d'habitude, non. Mais du coup, là, non, ça, le B, en vrai, ça te dit rien, toi.
Qu'est-ce qui ne s'est pas passé, quoi?
Ouais.
Qu'est-ce qui ne s'est... B, c'est quoi? C'est
participation
0%.
De 0%.
Après, ça peut arriver. Enfin, je sais pas, je réfléchis, mais je me dis que ça peut arriver.
Mais tout est plausible.
Ouais.
Il est très con ce quiz à la con.
Il est très très con.
Allez, je reste sur le B moi.
Allez, réponse B pour Namou.
Moi aussi, bah là je suis Namou là.
Pareil.
Réponse B pour Latifa, réponse B pour Loumir, réponse B pour le chat. La bonne réponse, c'était la réponse B, bravo.
Allez.
0%. Effectivement, à notre connaissance, aucune commune n'a eu un taux de participation de 0%. Les trois autres réponses ont bien eu lieu. La commune de Ferrières-la-Petite a réélu pour son cinquième mandat un certain André Marchand qui est décédé 5 jours après le dépôt des listes. C'est donc sa première adjointe qui a été élue par le conseil municipal à sa place. À Danemarie, dans le Haut-Rhin, deux candidats ont reçu exactement 468 voix. Ils ont dû appeler la préfecture pour savoir quoi faire. Et à savoir, il y a eu un second tour pour les départager. Ah, c'était.
Ils n'ont pas pris le plus jeune. C'est bizarre.
Ah, je sais pas, c'est bizarre. Mais ok, d'accord, un second tour pour les départager, c'est ce qu'il a fallu faire, d'accord. Et à Sandillon, dans le Loiret, un certain Gérard Malbeau a reçu 100% des suffrages exprimés avec 1417 voix.
Ah, beau gosse.
Waouh, il est populaire, pas mal.
Je précise que c'était le seul candidat.
Ah, ouais, d'accord, ouais, je me disais aussi.
Sauf que le taux d'abstention de 90%, le mec est détesté. Mais juste comme personne s'est présenté face à lui, il a 100% des voix. Incroyable. Cinquième question de ce quiz à la con. Quel duel de candidats n'a, à notre connaissance, jamais existé lors d'élections municipales en France? Réponse A, un père contre son fils. Réponse B, deux personnes ayant exactement le même nom et prénom. Réponse C, un homme contre son propre chien. Ou réponse D, un couple marié.
Non, mais le chien.
Est-ce que... Chien.
Si c'est légal, c'est un problème. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose.
Ils vérifient à la préfecture les cartes d'identité quand tu présentes une liste?
Oui.
Oui.
Bah oui, parce que tu dois signer ton acte de candidature. Donc je vois pas.
Ouais, mais tu peux présenter un chien en te faisant passer pour.
Ah non. En fait, la probabilité aussi des homonymes. Des deux gars qui ont le même prénom.
Non, mais le chien, pardon, mais. Est-ce qu'on peut dire que si on vit dans un pays où un chien peut être élu, c'est un problème?
Oui, non mais oui, non, mais oui, oui. Je veux dire, j'en sais rien.
J'ai pas l'air paniqué à la potentialité que ce soit possible.
Il y a d'autres pays en Europe où c'est pas. Je crois que c'est possible, mais parce qu'en fait, les élections sont plus honorifiques que chez nous. C'est un officier d'état civil, c'est un peu complexe. Mais c'est déjà arrivé qu'on présente des moutons, qu'on présente des tortues, et que les gens votent pour les lire. Et c'est une manière de se moquer de
l'élite
politique
locale. Parce que finalement, on a plein d'hommes politiques beaucoup moins sympathiques que des chiens.
Ça, c'est vrai. Mais c'est pour prononcer un mariage.
Il y en a deux trois, je voterai pour le chien en face.
Bah oui,
sûr.
Mais
effectivement.
Là, du coup, c'est le chien de l'homme qui se présente face à lui.
Se présente face à lui.
Oui, en plus, qui a pris la décision pour le chien? Il a auto-proposé son chien au scrutin.
Oui, non.
Là, excusez-moi. Ah, c'est trop gros, là. C'est
un peu lourd que vous prenez pour la gauche. Des cons, là. Je sais pas.
Il a voulu.
Présente un clébard.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Prendre les voix du parti animaliste.
Exactement.
Ils sont trois.
Non, mais oui. Non, c'est trop gros.
Mais les autres, vous en pensez quoi?
Tout le reste, c'est hyper possible. C'est hyper un père contre son fils, normal. Époux, un couple marié.
Classique.
Ils ont besoin de mettre un peu de piment dans. relation.
Chacun avec sa propre étiquette.
Chacun son étiquette et on se retrouve dans le lit. Ouais, non, pas mal.
Pour avoir qui est qui. Et sinon, après, homonyme, bah, c'est
homonyme, ouais. Peu,
non.
Homonyme, ça a dû arriver, je sais pas.
Il y a juste une lettre qui change.
Je regarde ce que le chat a voté. Le chat a voté le chien.
Ah bah, non, mais...
Le chat a voté le chien, réponse C.
Bah, réponse C.
Quelles sont vos réponses?
C'est
pour tout le monde? Comme pour le chat.
Si c'est ça.
La bonne réponse, mesdames et messieurs.
C'est pas ça, pardon.
C'était la réponse C. Bravo. L'homme contre le chien, à notre connaissance, ça n'est jamais arrivé. Par contre, les autres cas de figure ont bien existé. À Aumont, dans le Nord, un père qui était maire sortant a affronté son fils aux élections de 2020.
Ils ont la même tête.
Kendall.
Sur fond de conflit familial très dur, c'est finalement le fils qui l'a remporté à 53% contre 47%.
La relève.
L'ambiance de merde.
Waouh. À Noël, ça devait
être sympa. Après, j'avoue que si mon père, il mettait des doudounes fines comme ça, moi aussi, je me présenterais contre lui.
Sans manche.
Elles disent quelque chose politiquement, ces doudounes. Mais bref, on en reparlera.
Mais on sent qu'il y a de la revendication, là. Donc ça, c'est vraiment arrivé. En 2020, au Bacarès, dans les Pyrénées-Orientales, le maire sortant a dû affronter sa femme avec qui il venait de se séparer.
Non.
Waouh.
Bah encore mieux.
Ah, oh, j'adore. C'est finalement le maire sortant qui a remporté l'élection, sa femme n'obtenant que 30% des suffrages et lui 60.
Franchement,
c'est
et là vous
incroyable.
Allez dire Danny Boone, il a pas fait de film avec ça.
J'avoue Danny Boone, qu'est-ce que tu fous?
Tu leur donnes des idées là.
C'est un scénario incroyable. Il y a bien deux candidats qui ont porté le même nom, c'était Bernard Charrier en 89. Et devinez quoi? C'est Bernard Charrier qui a gagné.
Incroyable.
Comment ils ont su pour les départager? Le nom de la liste?
Oh non, je voulais voter pour Bernard Charrier.
Ouais, les autres membres de la liste, j'en sais rien.
Mais quand on dit sur un malentendu, ça peut marcher.
C'était déjà arrivé, toi, un homonyme? Loumir?
Moi, un homonyme Loumir, non.
Loumir l'après, non.
Mm-mm, jamais. Jamais rencontré d'autres Loumir.
Non, déjà. Je sais pas, vous, ça vous est déjà arrivé? Aux élections, non. De vous retrouver face à vous-même?
Non.
Non, t'as déjà été candidate, Namou, à une élection?
Jamais.
Non, jamais.
Peut-être au délégué de classe, peut-être, mais
ouais.
C'est le plus loin que j'ai fait.
Moi, j'ai été giga élu délégué de classe. Ah, carrément.
Ah ouais, tout le temps, chaque année.
Je siégeais au conseil d'administration et tout.
Ah, moi aussi.
En même temps, j'avais organisé les blocus et tout, donc forcément.
Oh. Ah, j'avoue, le conseil d'administration du collège, c'était.
Et toi, Latifa, candidate?
Non, le Max, élu au conseil d'administration de mon collège.
Conseil d'administration du collège. Ok, d'accord. Et toi, je rappelle que tu as été candidate NUPES en 2022.
Tout à fait, mais j'avais aussi été déléguée. Sauf en quatrième, où je n'avais pas été élue. Il y avait une mutinerie.
Merde. Il y a quelqu'un qui t'était passé devant.
Bah ouais, en plus, j'avais fait une très mauvaise campagne. J'avais vraiment fait campagne sur, vous savez, parfois on vous dit le changement c'est bien, mais en fait, pourquoi changer une équipe qui marche? C'était absolument pas inspirant.
Ah, chier,
j'ai perdu.
C'était nul, Loumir. Loumir, c'était nul. C'est Namou qui gagne ce quiz à la con.
Bravo.
Incroyable. Victoire de Namou pour ce quiz à la con.
Je crois que c'est rare. Donc j'en profite, je savoure.
Chers amis, nous allons continuer cette émission Backseat spéciale congrès de l'Association des maires ruraux de France en accueillant le président de cette très belle association. Un tonnerre d'applaudissements pour Michel Fournier. C'est pas vous ? Pardon ?
Plus d'applaudissements,
applaudit. Non, mais il faut venir, hein. Michel Fournier, donc président de l'Association des maires ruraux de France depuis 2020. Maire de Voivre dans les Vosges.
Les Voivres.
Merci beaucoup. Prenez le micro qui est devant vous. N'hésitez pas à bien le tenir devant votre bouche. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. On est très heureux d'être ici en direct du congrès de votre association. Ça se passe bien, il y a du monde. Vous y retrouvez l'atmosphère que vous y cherchiez?
Ah ben, la première journée, on ne peut pas dire que ça se passe mal quand même. Hein. Et quand on voit un peu
le nombre de participants, le nombre de, voilà, de maires qui se sont déplacés, et puis l'organisation ici, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je voudrais féliciter, j'en profite quand même, Cyril Sibert, qui est la cheville ouvrière au niveau du département, et puis bien entendu nos équipes à la MRF. Mais je voudrais aussi remercier les différentes personnalités qui nous ont rejointes ce matin, parce que ça donne aussi un crédit.
Vous aviez qui comme personnalité ce matin ?
Ben, il y avait déjà moi, en toute modestie.
Tout à fait.
T'as une autre question ?
Tout à fait. Non, je crois qu'il y avait la présidente de l'Assemblée nationale.
Il y avait la présidente de l'Assemblée nationale. Il y avait le président du Sénat. Et il y avait Françoise Gatel, ministre de la Ruralité, démissionnaire.
Démissionnaire, absolument. On va parler des maires ruraux avec vous. L'année prochaine, 2026, année d'élection municipale, une année importante pour les élus locaux, pour les maires ruraux. Comment vous la sentez quelle est l'atmosphère de cette élection municipale selon vous ?
Écoutez, j'ai suffisamment d'expérience, je ne sais plus combien de mandats j'ai, pour savoir que même dans un village de ma taille, 300 habitants, j'ai toujours eu, depuis que je me suis présenté, depuis 83, il y a toujours eu deux listes. Et j'ai toujours eu une liste contre moi. D'accord ? Pas par rapport à ma personne spécialement, par rapport au projet que l'on mettait en place. Et les projets étaient non pas à la taille de la commune, mais des projets très très importants, et financièrement, et de changement d'habitude dans les têtes. Ça veut dire que si on intéresse nos populations, et si on crée des défis, si on essaie de faire rêver, eh bien il n'y aura pas de problème d'engagement. Mais effectivement, si aujourd'hui on pense que la fatalité doit exister, je pense qu'il y aura un problème d'engagement.
Vous voulez dire que c'est la responsabilité des maires de susciter de l'engagement ? Il n'y a pas un problème quand on voit que 2189 maires ont démissionné ?
Non, les maires démissionnaires, il y en a, c'est une réalité. Mais il y en a toujours eu, il y en a un peu plus, voilà. Il faut aujourd'hui, pour un maire, avoir un peu le cuir tanné. Et si c'est ton premier mandat, eh bien c'est un peu difficile parce qu'il faut déjà pratiquement un mandat, pour comprendre quel est le fonctionnement de notre République. C'est très très dur aujourd'hui. On a complexifié les choses d'une façon telle que au départ, quand je voulais monter un projet dans ma commune, le projet, recherche de subvention, création du projet, démarche technique, etc. Allez, un an et demi, deux ans. Aujourd'hui, c'est un mandat. C'est ça la difficulté. Donc, il y a un problème d'engagement général de nos populations pour le faire vivre ensemble. C'est aussi vrai dans l'associatif, d'ailleurs. Hein. Dans l'associatif, on a un trou d'air à l'heure actuelle. Et donc, tout cela convide à accélérer les choses. Mais tout cela doit maintenant se remettre. Et je pense qu'il y aura des candidats, il y aura des candidatures. Et puis peut-être qu'après ces candidatures, devant la difficulté, ben, y a des gens qui se poseront la question. Mais je suis confiant. Franchement, je suis confiant.
Latifa ?
C'est vrai que les maires ruraux sont quand même confrontés à pas mal de difficultés. On en reparlera peut-être plus en détail par la suite. Mais vous plaidez, vous, pour un statut d'élu local. Et je sais que le texte avait été reporté encore avant l'été. Où est-ce qu'on en est de cette réforme ? Et je sais que c'est quelque chose sur lequel vous êtes particulièrement engagé et que vous appelez de vos voeux depuis quelques années maintenant.
Vous avez raison. Depuis quelques années, presque de trop nombreuses années.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous demandez quand vous demandez l'existence d'un statut d'élu local ?
Alors, on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais la ruralité aujourd'hui, la preuve en est, regardez le nombre de personnes qui viennent, le nombre de partenaires que nous avons, les médias, vous faites partie. Je ne vous ai pas vu il y a 5 ans, vous n'existiez peut-être pas.
Non.
Oui, mais il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas vu il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ruralité semble être une réponse pour beaucoup de nos concitoyens. Mais une ruralité qui soit vivante, une ruralité qui soit culturelle, une ruralité qui permette effectivement de se sentir à égalité dans le traitement par rapport au service à celui qui se trouve dans une urbanité. Alors le statut de l'élu, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'obligation de reconnaître que la fonction de maire, même d'une commune comme la mienne, 300 habitants, est très chronophage. Et vous pouvez difficilement aujourd'hui, et je pense à... Moi, je suis en retraite, c'est un peu différent maintenant, mais j'étais indépendant toute ma vie. Je peux vous dire le sacrifice que ça a représenté financièrement, socialement, etc., etc. Je suis pas là pour me plaindre, hein. Moi, c'est pas mon genre. Mais toujours est-il que si on veut que des jeunes s'engagent, et cette table, voilà, hein, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir exercer une activité professionnelle et une activité complémentaire, ou le contraire, l'activité professionnelle complémentaire de la fonction d'élu. Donc le statut de l'élu, c'est ça. C'est la demande de dire qu'il y ait une vraie reconnaissance, pas faite seulement par rapport à l'indemnité. Il y a déjà eu des progrès, de fait. Mais quand même, aujourd'hui, il n'est pas normal que le maire d'une commune en dessous de... on va dire en dessous de 500 habitants, soit avec une équivalence d'un demi-SMIG, en étant présent 24 heures sur 24, en étant avec une responsabilité, n'oublions pas qu'on a le pouvoir de police, etc. Donc nous avons travaillé énormément pour faire améliorer ce statut. Alors où on en est?
Ouais, pourquoi ça passe pas en fait au niveau national et
ça a encore été repoussé cet été.
Oui, ça a été repoussé. Ça fait qu'on... Alors, on agit pour que ça ne le soit plus. On a obtenu de François Bayrou, on peut dire même j'ai obtenu, qu'on puisse avoir dans la session extraordinaire de début juillet, que effectivement à l'Assemblée ça puisse passer. Parce que vous savez, il y a le circuit.
Oui, bien sûr, ouais. La navette législative.
Et aujourd'hui, on a la certitude. D'ailleurs, Gérard Larcher l'a confirmé, hein, que début octobre, puisqu'il faut, ça va passer au Sénat, et du Sénat, ça repassera à l'Assemblée, et on pense que raisonnablement, novembre, ce sera acté. Ça sera un
On croise les doigts, c'est pas encore fait, parce qu'il faut encore l'inscrire à l'ordre du jour, il faut que le nouveau gouvernement l'inscrive.
Oui, mais ils vont faire, on va faire en sorte que ça soit inscrit. Les deux présidents qui étaient là, effectivement, nous ont quand même apporté des garanties sur cette volonté de l'inscription. Il ne faut pas oublier, ils ont une responsabilité, hein, que ce soit Gérard Larcher ou Yaël, hein, Braun-Pivet. Hein. Elles peuvent apporter un plus en obligeant certaines, dans des espaces, dans des niches, de dire il faut que ça passe. Hein.
Et j'ai entendu effectivement le Premier ministre, je crois, qui veut qu'avant les municipales, ce soit réglé.
Oui, oui, oui. Et puis surtout, il faut que le Premier ministre, ça soit réglé avant qu'il ne soit plus Premier ministre.
Parce que ça c'est ça la
problématique. Ben, je ne lui souhaite pas, mais non, c'est la problématique. Aujourd'hui, on se pose tous la question en se disant, eh bien, OK, il faut que les choses se mettent en place. Mais justement, ce que l'on peut regretter, c'est que la proposition qu'avait faite Françoise Gatel, elle date de 2023, début 2024, quand elle était sénatrice. Donc vous voyez, il y a que déjà eu ce... Alors que ça devrait être classé, point, quoi.
Lomir.
Mais on a confiance. Hein.
Vous parliez d'engagement et aussi des difficultés qu'il peut y avoir à concilier une vie professionnelle et une vie d'élu. Il y a seulement 17% des maires des communes rurales qui sont des femmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le cas et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire collectivement pour qu'il y ait plus de femmes maires aujourd'hui? D'ailleurs, je tiens à préciser quand même qu'il y a plus de femmes maires dans des communes rurales que dans des communes urbaines. C'est important quand même.
Oui. Alors, vous n'avez peut-être pas suivi l'actualité récente, parce qu'on s'est fait fouetter par beaucoup de nos collègues, dans la mesure où on a été la MRF, mais pas seulement seul, hein, l'AMF également. On a été volontaire pour faire en sorte que dans les communes de moins de 1000 habitants, il y ait l'obligation d'une liste, l'obligation... de la parité dans ce cadre-là.
Et j'ai suivi.
Donc, pardon ?
J'avais suivi, oui.
Ah, oui, donc ça c'est important, ça va être un accélérateur. Et effectivement, la représentation après ça sera différente.
Donc on aura des conseils municipaux mixtes.
Oui, bien sûr. Mais pourquoi les femmes sont souvent plus réservées par rapport à cela, par rapport à l'engagement ? La différence essentielle, ça va faire plaisir aux mecs qui sont là. Hein. La différence essentielle, c'est que les femmes, elles ont souvent une forme, je le dis parce qu'on le rencontre, une forme de complexe, un peu. De timidité. Est-ce que je vais y arriver? Elles se posent toujours la question. Est-ce que je vais y arriver? Parce que, est-ce que je serai à la hauteur? Et surtout, dans la conception, il y a trois femmes là. Hein, et dans cette conception-là, si moi je fais quelque chose, si moi je m'engage, je veux aller au bout. Moi je veux être sûr que, et que je ferai bien, etc., etc.
Ce que vous voulez dire, c'est que les hommes, même moins compétents, n'hésitent pas à se présenter, ils ont moins de complexes.
Les hommes ne se posent pas de questions.
Non, mais après, c'est comme, dans la, effectivement, c'est comme dans la vie professionnelle normale. Ce qu'on dit, par exemple, quand il y a une offre d'emploi, une femme va considérer qu'elle va devoir répondre à 80% des critères pour envoyer sa candidature, tandis qu'un homme, s'il voit qu'il a 30% des critères, il va l'envoyer sa candidature. Voilà. Et, c'est la même dynamique qu'on retrouve ici pour les candidatures.
Pareil. Ça veut dire qu'il faut vous prendre en main. Et il faut surtout...
Oui.
Ben oui, ben si. Il faut surtout...
Oui, enfin...
Ben si.
Bah, les meufs, présentez-vous aux élections municipales.
Voilà, ben voilà, mais c'est...
Non, vous
mais,
restez-moi.
Yael l'a souligné encore tout à l'heure. Mais en fait, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est se dire, ok, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, mais ça fait rien, il faut que je tente le coup. Et n'oubliez jamais
si
une chose.
Si vous saviez le nombre d'hommes imparfaits qui se présentent.
Hein?
Si vous saviez le nombre d'hommes imparfaits qui se présentent.
Il y en a aussi des parfaits, il ne faut pas pousser, toi.
Oui, oui, oui.
Bah c'est quoi? C'est François Giroud qui disait la vraie parité ou l'égalité, c'est quand on mettra une femme incompétente à un poste d'homme compétent ou à la place, quoi. Donc c'est.
Oui, c'est.
Ouais,
oui, c'est une façon de regarder les choses.
Non, mais voilà. Fin...
Je voulais vous demander si la réforme du mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants était une bonne mesure.
Ben, je viens de vous répondre.
D'accord.
C'est une bonne mesure dans la mesure, où... Je vais prendre mon exemple. Il y a toujours eu deux listes dans ma commune, je vous l'ai dit, depuis 83, d'accord ? Parce que j'ai monté une liste contre le maire sortant à l'époque et je suis maire depuis 89. J'ai toujours eu la parité. Et j'ai 300 habitants.
Donc c'est possible, en fait, si on veut.
En ce moment, j'ai trois adjointes, c'est trois femmes. Alors, je sais aussi, je ne sais pas si elle est là, Nadine Kersaudy. Nadine Kersaudy, qui est présidente des maires ruraux du Finistère. Quand elle a vu cette nouvelle proposition de loi pour les moins de 1000 habitants, elle s'est dit, moi, je suis emmerdée, j'arrive pas à trouver des hommes. Donc, vous voyez les situations. Pas, ouais. Alors, faire croire ou faire penser que ça sera difficile, etc., il y aura des difficultés. Quelquefois, c'est vrai pour certains. On en est conscient. Mais le Sénat a répondu à la question. Le Sénat a permis à ce que, normalement, dans une commune de moins de 100 habitants, à la place de 7 nécessaires pour que la liste soit validée, il peut y avoir 5 personnes. Et si on n'est pas capable de trouver dans une commune de 100 habitants, de moins de 100 habitants, 2 femmes, eh bien, la commune n'a plus de raison d'être. Ça peut être aussi simple que ça. Et ça, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde.
Je veux bien croire.
Non, c'est intéressant. Ça ne vous échappe pas. Il y a actuellement des négociations dans le bureau du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a la difficile tâche de trouver un budget. Et on sent que la soupe risque d'être amère pour les collectivités locales qui risquent de recevoir un nouveau tour de vis budgétaire. Est-ce que ça vous inquiète, vous qui êtes président de la MRF? Est-ce que les communes vont devoir payer?
Alors, l'inquiétude, ce n'est pas forcément sur les communes rurales. Je m'explique. On a l'habitude de faire souvent avec des bouts de chandelle. Voilà. Donc on se débrouille et on essaie toujours de se débrouiller. La difficulté, ça va être par rapport à des collectivités et autres, départements, régions ou interco, qui auront effectivement, qui sont souvent, qui accompagnent nos projets et qui ont, si elles ont moins de moyens, eh bien on le voit, il y aura forcément moins de services. Moins d'aides, de subventions, etc. C'est ça la difficulté. Mais en ce qui concerne notre fonctionnement à nous, si on... je vais être encore plus direct. Hein. Ce matin, vous n'avez peut-être pas entendu, mais on ne supporte plus qu'un citoyen en ruralité vaille deux fois moins qu'un citoyen en urbanité. Ça, c'est plus possible. Donc, ça veut bien dire que si, effectivement, on se répartissait les moyens d'une façon, non pas, pas équitable, juste liberté, égalité, fraternité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, depuis des décennies. Donc, si notre DGF, la dotation générale de fonctionnement, était réévaluée, regardée, énormément de communes rurales se retrouveraient avec une bouffée d'air et un ballon d'oxygène, je peux vous le dire.
Mais est-ce que l'État en aura les moyens? Ça, c'est tout.
Ah non, il n'y a pas besoin de moyens.
Ah, c'est juste la péréquation.
C'est une péréquation, oui, c'est à somme constante.
Mais j'avais
pas
compris.
Voilà, donc on n'aura pas de problème particulier si on va dans ce sens-là.
Namou?
Du coup, ça fait maintenant 5 ans que vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France. Quel bilan vous pouvez faire aujourd'hui de toutes les actions que vous avez pu entreprendre? Et est-ce que vous pensez continuer justement cette fonction? Qu'est-ce que vous vous imaginez pour le futur?
Alors, je suis à l'Association des maires ruraux de France depuis 1992, d'accord? J'ai été successivement secrétaire général, vice-président et le premier vice-président avec Vannick Berberian, notre ancien président. Aujourd'hui, je suis président. Demain, on verra. Ce qui est sûr, c'est que je me représente. Déjà, que ça soit clair.
Ok, c'est clair.
Ça, c'est clair. Voilà. Et ce qui est clair aussi, c'est que on a vu l'évolution lors de cette mandature, quand il y avait déjà, de par l'activité et la personnalité de Vannick Berberian, il y avait une progression de notre structure qui a été plus forte. Il y a eu un accélérateur par rapport à lui, par rapport au groupe autour de lui, d'accord ? Aujourd'hui, cet accélérateur, il est en pleine progression. Pensez qu'au début du mandat, nous avions 8000 adhérents. Nous en sommes à 13 500. Ça veut bien dire qu'on correspond à une demande, à un besoin, et que ce besoin, beaucoup se retrouvent chez nous par rapport au fait... On vit les choses. Nous, on vit les choses au quotidien. Je l'ai dit encore ce matin. Quand il y a une vache qui est lâchée, on te téléphone au milieu de la nuit. Il y a deux vaches qui sont lâchées. C'est le maire. Tu parles, j'arrive plus à courir, moi. C'est le maire qui doit rentrer les vaches. C'est le maire qui doit récupérer le chien. Non, mais attends... on est à Poitiers ici, hein. C'est pas la mère de Poitiers qui va courir après une vache ou après le chien. C'est la réalité du quotidien, ça. Donc c'est comme cela. Les gens viennent chez nous à domicile. Michel, attends, je suis emmerdé. Tu sais que j'ai. T'as vu l'heure qu'il est? C'est ça notre vie au quotidien. Et donc ça, c'est chronophage aussi. C'est chronophage dans nos têtes aussi. Ça veut dire qu'il nous faut, à un moment donné, nous libérer. C'est pour ça que j'aime bien la Mirabelle.
Dernière question. Le maire, c'est l'élu préféré des Français, on le sait. Hier, il y en a un autre élu qui a été condamné, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné pour association de malfaiteurs. Il ira bel et bien en prison. Qu'est-ce que ça vous évoque sur l'image des élus, sur la déconnexion qui peut exister entre certains, entre de très nombreux citoyens et leur politique, quel qu'il soit?
Alors, c'est une question qui... nécessiterait une réponse avec une langue de bois.
Vous n'êtes pas obligé.
Mais je ne suis pas obligé. Ouais. Toujours est-il qu'il y a deux choses. Et je suis d'accord avec le président du Sénat. Aujourd'hui, la condamnation du président Sarkozy, elle est sujette à un appel, à une potentialité d'appel. Dans ce cadre-là, notre façon de faire la justice... c'est de considérer que tant qu'on n'est pas au bout, les gens sont présumés innocents. C'est clair, ça. On voit que dans ce cadre-là, il y a un effet politique certain par rapport à ce que l'on sait qu'il y a une demande d'emprisonnement dans quelques jours, qui n'est des fois pas demandée par rapport à d'autres infractions ou autre par rapport à des citoyens plus classiques.
Dans le cadre d'un tribunal correctionnel, c'est assez courant quand même.
D'avoir
une exécution provisoire et un mandat de dépôt.
Oui. Je peux vous dire que nous, constatant quelquefois les actions... il est où le maire de... Varzy, il est où? Il est là?
Pourquoi il a fait quoi?
Je vais vous prendre un exemple. Non, mais à un moment donné, il faut aussi savoir les choses. Le maire de Varzy, président, il n'est pas là, Gilles Noël?
Mais de toute façon,
président de l'Association des maires ruraux. Non, mais voilà les réalités. Il y a quand même des fois un regard de la justice qui peut être un peu différent. Il a eu affaire à un rodéo moto dans sa commune, d'accord? Il en a marre de voir les jeunes, parce que ce sont des jeunes, qui passent en moto sur une roue, etc., etc. Il dit, ça ne peut plus durer. Il sort de la mairie et il dit, maintenant, ça suffit. Ça fait un quart d'heure, une demi-heure que vous faites ce rodéo, ça suffit. Les jeunes ne s'en occupent pas. C'est une commune de 1000 habitants. Hein. Le maire, il est connu, ce n'est pas son premier mandat. Hein. Eh bien, le maire, il pouvoir faire en sorte de mettre fin à ce rodéo, il se met au milieu de la route. Il se met au milieu de la route pour arrêter physiquement, entre guillemets, le rodéo. Un des jeunes n'accepte pas cette demande d'arrêt et fonce sur le maire. Et bien entendu, il a juste le temps de se retirer, mais en se retirant, il accroche le jeune avec sa moto. D'accord ? Le jeune, il tombe. Il tombe avec la moto. Il a quelques ecchymoses. La famille porte plainte. Le maire est condamné. Le maire est condamné. Il est condamné. On l'a mis en garde à vue pendant 48 heures. On lui a demandé. Et finalement, ça s'est passé comment ? Eh bien, il a négocié avec la justice pour ne pas, pour ne pas être, entre guillemets, emprisonné, parce qu'il y avait cette... c'est ça le traitement.
Ça ne répond pas à ma question sur Nicolas.
Si, si, ça répond à votre question. Ça veut dire qu'il y a eu des appréciations qui, quelquefois, dans le cas de figure que vous voulez évoquer, qui peuvent être assez étonnantes. Moi, je n'ai pas les compétences de dire... Il y a une culpabilité, il n'y a pas de culpabilité. Ce que je sais, c'est que quand, à partir de l'instant où effectivement, mais il y a, et c'est pas le seul, hein, il y a eu d'autres exemples auparavant, hein. Il n'y a pas eu un certain Cahuzac là ? Faut le dire aussi.
Bien
hein.
sûr.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce genre de procès légitime, ce genre d'initiative qui est faite. Donne une image globale des politiques qui est complètement...
Vous pensez que le problème, c'est le procès ? Le problème, c'est plutôt Nicolas Sarkozy et qui fait ce dont il est accusé, plutôt que le procès qui vient rétablir la justice. Enfin, bon, après ça, on peut en débattre.
Non, mais... non, j'ai rien contre le procès. Je ne suis pas à même de juger et je n'ai pas à faire de commentaires sur le procès. Je dis simplement...
Non, sur l'image des élus.
Sur l'image des élus globale, d'une façon globale. Eh bien, et là, heureusement, les maires ruraux échappent à ça. Parce que on a la proximité et on sait que nos moyens sont modestes et que si il y a un détournement chez nous, ça va être un ster de bois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Fournier. Vous pouvez l'applaudir très fort. Michel Fournier, président de la MRF, d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse quitter le plateau.